Mesdames, Messieurs, nous allons reprendre notre journée d'études avec une communication du professeur Bernard Dampigny que j'ai l'honneur et le plaisir d'accueillir. Bernard Dampigny est professeur d'histoire moderne à l'Université Blaise Pascal de Clermont-Ferrand. C'est un spécialiste d'histoire du catholicisme, notamment au XVIIe et XVIIIe siècle, dans les domaines essentiellement français et italien. Je dirais, pour le présenter très brièvement, qu'un de ses grands mérites est d'avoir toujours associé des travaux personnels extrêmement pointus à un sens de la recherche collective. Il a très souvent fédéré des groupes de recherche authentiquement pluridisciplinaires, comme on dit maintenant, autour des questions qu'il a travaillées. Je pense en particulier à ses travaux sur le culte et les cérémonies, hein, avec une série de colloques au Puy en Velay, et dont les actes sont édités, et aux travaux qu'il mène depuis de longues années sur les musiciens d'église, les musiques d'église et les musiciens d'église sous l'Ancien Régime, avec le concours d'autres historiens et de musicologues en particulier. On lui doit un ouvrage récent sur les Capucins, Enquête au pays des Frères des Anges, donc sur les Capucins au XVIIe et au XVIIIe siècle, et c'est donc, pour résumer, un grand historien des dévotions et du culte, avec un travail sur Saint-Joseph, le culte de Saint-Joseph notamment, et un travail qui se fonde en particulier, mais pas exclusivement bien sûr, sur les archives romaines. Je lui passe la parole immédiatement.
Merci Madame la Présidente et merci à Carlo Ossola pour cette invitation dont je suis très flatté. Je vais, en ouvrant cette demi-journée, aller dans des champs complètement extérieurs à ceux que nous avons explorés ce matin. C'est une des raisons pour laquelle je ne passerai pas d'image. Je sors du domaine de l'histoire de l'art, j'aurais pu en trouver, mais finalement je vais vous présenter un exposé, je dirais classique, sur un personnage dont beaucoup d'entre vous n'ont sans doute jamais entendu parler, qui s'appelle Félix de Cantalis, qui est toutefois un saint tout à fait officiel de l'Église romaine depuis 1712. Et il m'a semblé, et c'est d'où le choix de mon titre, que la vie religieuse telle qu'elle est présentée, la vie de Félix telle qu'elle est présentée, est un art de la simplicitas. Félix de Cantalis fait partie des quelques personnages de la Rome du second XVIe siècle que l'Église a canonisé, avec notamment le pape Pie V et saint Philippe Néri. Dans son cas, il a fallu attendre 1712 pour la canonisation, en même temps que Pie V. La première étape vers celle-ci, la béatification, a été franchie très rapidement puisqu'il est béatifié dès 1625. Bien plus, à la demande du pape Sixte Quint lui-même, qui régnait au moment où Félix meurt en mai 1587, des dépositions commencent à être recueillies dans le mois qui suit son décès. Ce premier volet du dossier de canonisation, ce qu'on appelle le processus Sixtinus, le procès de Sixte Quint, du dossier, donc, l'enquête sera reprise en 1614, puis en 1617-1618. Ce premier volet constitue évidemment une mine documentaire de premier ordre pour l'historien de la vie des Capucins, d'une part, comme pour l'historien de Rome de la seconde moitié du XVIe siècle. Mais il ne faut évidemment pas se laisser piéger par cette apparente ingénuité de la source que représentent toutes ces dépositions. Ce que cette source révèle, c'est d'abord l'image de la sainteté qui a cours dans la Rome de la seconde moitié du XVIe siècle, depuis le pape qui considère que Félix mérite la canonisation, jusqu'aux humbles frères capucins et aux boutiquiers de la ville qui, les uns comme les autres, viennent déposer, mais à l'évidence, sélectionnaient dans leur souvenir du frère ceux dont il fallait garder mémoire. Ce sont donc plutôt les idéaux de sainteté de la Rome du XVIe siècle qui apparaissent et qu'il faut lire à travers les témoignages sur la vie de Félix de Cantalis. L'intérêt de ce dossier de source est renforcé lorsqu'on choisit comme angle d'approche la simplicitas par le fait que le religieux qui en occupe le centre, Félix, n'est nullement un personnage de premier plan par sa doctrine, ses écrits, ses fondations, ses responsabilités institutionnelles, mais un simple frère laid, c'est-à-dire un frère laïc qui n'est pas prêtre, dont toute l'activité fut de quêter par les rues de la ville pendant 40 ans. Toutefois, il ne s'agit pas tant d'établir une équation entre simplicitas et humilité du mode de vie que de considérer cette double condition, cette humble condition, pardon, de quêteur comme un révélateur des facettes de la simplicitas à Rome durant cette période, c'est-à-dire d'arriver à lire certains phénomènes plus profonds à travers ce personnage de Félix de Cantalis. Je vous propose donc d'opérer en trois temps, des repères biographiques d'abord, pour autant qu'on en ait, un petit peu quand même, l'incarnation d'un idéal de la vie religieuse dans un second temps, et enfin, troisième temps, une figure de sainteté adaptée à la Rome post-tridentine. Un frère quêteur sans histoire, ce sera mon premier point. La vie de Félix de Cantalis est celle qui se raconte brièvement, tant les événements qui peuvent être rapportés à une date sont peu nombreux. Les repères chronologiques sont à peine assez nombreux pour le situer précisément. On sait qu'il naît dans le bourg de Cantalice, près de Rieti, le 18 mai 1513, dans une famille modeste, d'un père prénommé Sante et d'une mère prénommée Santa. Vous vous doutez bien que les hagiographes seront très heureux de pouvoir relever cela. Il était prédisposé. Très jeune, il a 10 ans environ, il est mis au service d'une famille de città ducale et pour garder les troupeaux, cultiver les champs. Et pendant 20 ans, son existence est celle d'un humble ouvrier agricole. Ce n'est qu'à l'âge de 30 ans, en 1543, qu'il choisit d'entrer chez les Capucins comme frère lait. Il est analphabète, donc il ne veut pas aspirer à une autre situation. Je rappelle que l'ordre des Capucins est alors tout récent et surtout extrêmement fragile. Les premiers frères se sont rassemblés en 1528, Louis de Fossombrone et Matteo d'Abascio. C'était des observants qui ont décidé à l'intérieur de l'observance de mener une vie érémitique, qui ont eu besoin d'appui parce que la famille observante s'opposait à leurs initiatives. Quand on est en 1543, certes, les Capucins ont adopté des premières constitutions en 1529, dites d'Albacina, et même de nouvelles constitutions plus solidement fondées institutionnellement en 1536. Enfin, l'ordre demeure extrêmement fragile encore. Ce n'est un ordre que de 700 frères environ pour l'ensemble de ces maisons. C'est un ordre dont les fondateurs ont déserté. Les deux fondateurs ne finiront pas leur jour avec l'habit capucin, ce qui est quand même assez rare. Et enfin, 1543, l'année précédente, le vicaire général, c'est-à-dire le personnage le plus important quand même, de cette branche de l'observance franciscaine, eh bien, est passé armes et bagages à la réforme. Il s'agit de Bernardino Occhino. Donc beaucoup de gens pensent en fait que c'est un ordre qui ne survivra pas parce qu'il rencontre des hostilités chez les observants, il rencontre des oppositions à la curie. Heureusement, quelques grandes familles les soutiennent vraiment avec beaucoup de constance et de fermeté. Et c'est sans doute grâce à eux que l'ordre devra sa survie. Donc, il rentre là dans une famille religieuse un petit peu marginale, pas encore complètement constituée, pas encore complètement affermie. Si Félix choisit cet ordre, en dépit des incertitudes du moment, c'est, dit-il lui-même, parce qu'il y voit une actualisation de la vie des pères du désert, marqué par une extrême austérité, notamment au niveau alimentaire, c'est un thème qui revient souvent, et il est évident que la vie des premiers capucins se singularise d'abord par sa grande austérité, j'y reviendrai dans un instant. Il est reçu en 1543 au couvent de Città Ducale, et il y reste pas très longtemps, on l'envoie faire son noviciat. Bon, je passe sur ces intermèdes, sur ces petits épisodes peu importants, et je retiens qu'il est envoyé en 1547 au couvent de Rome, où il demeure jusqu'à sa mort en 1587. Il est donc resté 40 ans à Rome. Ce couvent, c'est celui qui s'appelle San Nicolo de Portiis, ou couvent Saint-Bonaventure, qui est le troisième lieu d'implantation chronologiquement des Capucins à Rome, qui n'est pas encore le couvent de la Via Barberini et de la Place Barberini où ils seront installés par les Barberini au moment d'Urbain VIII en 1631, mais qui est déjà le troisième parce que le premier était dans un lieu tel qu'il a été inondé au bout de quelques mois, etc. Bon, c'est un établissement qui, par rapport au précédent, est de bonne qualité, qui est à Montecavallo, donc il est sur les flancs du Quirinal, à une époque où ce quartier est surtout occupé par des villas, des résidences d'été, des parcs et des jardins. Et c'est par la protection d'une famille que les Capucins obtiennent d'avoir là cette église, cette ancienne église de San Nicolo de Portis, et qu'ils fondent leur couvent à cet endroit. C'est le quartier où, pendant que Félix de Cantalis vit au couvent, le pape Grégoire XIII commencera en 1583 la construction d'une villa pour séjourner en été qui sera développée par Sixte Quint et qui fournit la base du palais du Quirinal. Félix devient une figure de la Rome du XVIe siècle. Durant les 40 années de son séjour, il occupe donc de manière continue la fonction de quêteur, essentiellement la quête du pain, mais aussi la quête du vin et de l'huile. Cette fonction le conduit à circuler journellement dans les divers quartiers de la ville où il côtoie les milieux sociaux les plus variés. En particulier, il a ses entrées dans les palais des grandes familles qui font l'aumône aux Capucins. Il fréquente aussi certains cardinaux. Il est dans ce cadre-là un familier de Philippe Néri qui d'ailleurs, petite anecdote à souligner au passage, fait dessiner son portrait à son insu par un jeune homme qui est employé à cette date dans l'atelier du Pomarancio et qui a peut-être, ce jeune homme a peut-être une quinzaine d'années et qui n'est autre que le cavalier d'Arpin. Et c'est le seul portrait que nous ayons, c'est un dessin que nous ayons de Félix de Cantalis de son vivant. Il y apparaît comme un vieillard à la tête ronde, à la barbe fournie, un peu voûté, une besace sur l'épaule gauche, avec un regard humble plongé dans la méditation. Ce dessin servira bien sûr aux premières gravures réalisées en vue de la béatification du frère, notamment la gravure de Sadeler en 1615. Son comportement le fait tenir pour saint de son vivant. Divers témoignages, notamment lors du procès de béatification, rapportent qu'il opérait des miracles à l'occasion de ses tournées. Le cas le plus fréquent était que une famille l'appelle lors de son passage, l'appelle dans la maison où se trouve un malade, qu'il touche ou devant lequel il récite une prière, ce qui suffit à occasionner la guérison. Mais on rapporte aussi des miracles plus directement liés à la pratique de la quête, comme lorsqu'il arrive dans une famille, demande du vin, on lui explique que le tonneau est vide, il dit mais non, et il prend le tonneau et remplit sans difficulté son outre pour porter au couvent, parce que pour lui, le tonneau n'est pas vide. Aussi n'était-il pas étonnant que son décès commence par susciter l'arrivée au couvent de très nombreux Romains qui veulent le voir, le toucher, si possible emporter quelques reliques. Certains prennent des morceaux de son vêtement sur lui ou des poils de sa barbe, des cheveux aussi. Les frères doivent donc le retirer derrière le portail de sorte qu'il puisse être vu, que sa dépouille puisse être vue sans être touchée. Et pour ses obsèques, l'église est pleine bien sûr, mais aussi la place, les rues adjacentes. Tout cela concorde dans un certain nombre de témoignages. Dès cette exposition du corps mort, les miracles surviennent, notamment la guérison d'une jeune femme possédée, qui est rapportée par plusieurs témoins, et qui a été amenée auprès de la dépouille du frère, puis d'autres guérisons miraculeuses à travers la ville, pratiquées grâce à des morceaux du vêtement ou grâce à sa corde, qui sont transportées et qui sont données. Très rapidement, ces reliques se diffusent, notamment par l'intermédiaire des frères, et on a également des miracles dans d'autres villes. Je n'insiste pas à la fin de cette première partie sur les sources qui concernent la vie de frère Félix, puisque j'en ai dit un mot en introduction, et seulement, je voudrais seulement souligner que nous avons véritablement là un corpus d'une rare ampleur, d'une rare richesse, notamment pour un frère laid. Lors du premier lors du procès ouvert par Sixte Quint, il y a déjà 111 témoins qui sont consultés, donc qui sont examinés, interrogés dans les années 1587-88, 111 témoins dont 36 capucins, ce qui veut dire qu'il y a aussi beaucoup de Romains, de gens extérieurs à l'ordre, et puis à nouveau, quand le procès reprend en 1614, il y a à nouveau 223 témoins qui sont interrogés. Donc on peut déjà recouper tous ces témoignages. Par ailleurs, très rapidement, des vies brèves, mais des vies du frère Félix sont écrites, notamment deux sont écrites par des personnages qui jouent un rôle important dans l'ordre, notamment celui qui s'appelle Sante Tesoro da Rome, qui est provincial, qui a été gardien du couvent de Rome, qui sera définiteur général, et une autre par Mattia da Bellintani da Salo, qui est aussi un personnage tout à fait important et qui est en plus un de ceux qui implantent l'ordre en France à la fin du XVIe siècle. Il me semble intéressant d'avoir en contrepoint ces vies écrites par des religieux importants de l'ordre, parce qu'elles apportent un autre éclairage et elles nous donnent une lecture possible de la vie de Félix, qui est un point qui évidemment m'intéresse. Deuxième partie, donc, au-delà de la simplicité des apparences, une appropriation d'un idéal religieux. Tous les témoignages sur frère Félix soulignent sa manière parfaite de vivre les obligations de la vie capucine et de cultiver les vertus qui leur sont liées. Il y a chez lui, à l'évidence, une forme d'héroïcité des vertus, pour reprendre une formule qui est utilisée dans les procès de canonisation. Il ne suffit pas d'appliquer les vertus, encore faut-il le faire à un degré héroïque, c'est-à-dire beaucoup plus que le commun des chrétiens. Les constitutions de l'ordre qui invitent à un retour à la vie franciscaine primitive insistent évidemment sur les diverses vertus qui sont liées aux trois vœux de religion, mais plus particulièrement sur la pauvreté, le détachement total des biens matériels, la désappropriation de soi, qui est à la fois signe d'obéissance et de pauvreté, et l'humilité. En d'autres termes, un capucin peut être défini comme un homme de la simplicité. À bien des égards, frère Félix apparaît comme tel dans les dépositions et dans les biographies, mais il faut aller au-delà du relevé des faits et gestes du frère pour comprendre profondément ce qu'est cette simplicitas. Alors reprenons donc ces faits et gestes. Une observance de la règle au-delà des observances, c'est véritablement la première caractéristique. Les dépositions des frères en 1587, et notamment celles des frères Lay, ça c'est un point relativement intéressant, c'est que finalement les frères Lay ne sont pas attentifs aux mêmes aspects que les frères prêtres. Les dépositions des frères Lay soulignent toutes combien frère Félix a été scrupuleusement respectueux de toutes les obligations de la règle et des observances qui en découlent. Comme je n'ai pas l'intention de vous faire un ouvrage, un exposé de la géographie, je passerai assez vite, mais il est clair que ces austérités dans le vêtement et dans la nourriture sont absolument remarquables. Il ne se vêt qu'avec des vêtements usagés, rapiécés, les plus vils qu'il puisse trouver, des vêtements de la plus grosse étoffe que l'on puisse trouver. Il s'agit de l'étoffe d'Albaggio de Gênes, qu'à cette date-là, pratiquement vers la fin de la vie de frère Félix, les capucins n'utilisaient plus. Mais on en retrouvait quand même pour lui, parce qu'il fallait lui faire ses vêtements dans cette étoffe la plus grossière possible. Le fait qu'il se contente pour ses repas la plupart du temps de pain, il mange en dehors des heures du réfectoire, puisqu'il est quêteur, il va arriver au couvent à l'issue de sa quête après le repas, et donc il passe à la cuisine, il ramasse quelques croûtons de pain laissés par les frères, se contente de cela, sauf si le frère cuisinier lui donne davantage. Il met de l'eau dans sa soupe pour qu'elle n'ait pas trop de goût, etc., etc. Les anecdotes sont très nombreuses dans ce domaine-là. Il dort très peu, parce qu'il passe la plus grande partie de la nuit en prière, et il préfère s'étendre sur une table que sur son lit, prenant pour oreiller un fagot de sarment ou une botte de fenouil. D'une parfaite obéissance envers ses supérieurs, il n'entre jamais en dispute avec ses frères et donne ses avis avec parcimonie. Il semble que, d'après plusieurs témoignages, il y avait une formule qu'il appréciait particulièrement et qui était de dire « bo, bo, assaidi, ko e poco fo », ce qui était une manière de dire « bon, allez, assez parlé, passons aux actes ». À vrai dire, il converse très peu avec ses frères et jamais de questions vaines, ses entretiens étant toujours spirituels. L'ensemble de ses austérités ne lui coûte pas. C'est aussi ce que soulignent les témoignages. Il est toujours joyeux. Et pareil, va que si godesse et nel patire. Un frère qui a reçu de frère Félix le récit de sa vocation rapporte que l'ivène est un grand desiderio di voler patire e penso d'entrare nella religione e d'andare in quel luogo e di non aver mai a maniar. Le souci, donc, il a choisi les capucins parce qu'il voulait souffrir et parce qu'on n'était pas sûr de manger chez les capucins. Ça semble pour lui un élément important. Et or, il faisait et il respectait toutes les observances à la règle. Cette âpreté de la vie quotidienne qui fait de lui un parfait religieux, totalement respectueux des obligations énoncées dans les constitutions, correspond à un total détachement des biens et surtout à un mépris du corps profond. Mais cette simplicité n'est nullement une fin en soi, elle est au service d'une vie spirituelle intense. Frère Félix est aussi un homme de l'intériorité, et je voudrais là évoquer ce que j'appellerais les paradoxes du quêteur modèle. Les témoignages des Capucins n'insistent pas moins sur l'intensité de sa vie spirituelle que sur l'austérité de son mode de vie. Il est homme de l'oraison, notamment au cours des longues nuits de prière à l'église. Il se rend à l'église au milieu de la nuit jusqu'à matine, qu'il sonne. Il se retire alors de sa cellule pendant matine et revient à l'issue de cet office pour prier jusqu'à la première messe qu'il sert. Sa relation à Dieu ne passe donc guère par la récitation collective des heures. Il n'est pas là à matine, dont il est d'ailleurs exclu par son analphabétisme. Pour participer aux heures, à la récitation des heures, il faut être capable de manier un bréviaire, et donc cela suppose d'être un lettré. Mais précisément, sa relation à Dieu est une relation beaucoup plus personnelle, qui se fonde toutefois en partie sur des textes du bréviaire ou de l'écriture, qu'il connaît par cœur et qu'il récite, et d'après des exemples qui nous sont donnés, c'est une récitation à moitié en latin et à moitié en italien. Il a mémorisé des textes un peu à sa manière et y a mis un peu du sien. Il y a donc chez lui un primat de l'oraison personnelle, et cela me semble un trait important à relever, notamment dans cette optique de repérage de ce qu'est la simplicitas. Cette oraison personnelle repose partiellement sur les formules de prière, mais très peu. Il avoue lui-même ne pas achever son chapelet, car les phrases qu'il récite le conduisent immédiatement à la méditation et à l'oraison. Ces oraisons nocturnes, d'après des témoins qui l'ont épié, font alterner des moments de silence et des moments d'expression parlée ou chantée, des moments d'exultation et des moments d'affliction, des moments d'immobilité et des moments où il circule dans l'église. Parfois, il reste ainsi allongé, les bras en croix, au milieu de l'église pendant de longues heures. Il y a donc deux caractéristiques à sa prière, notamment à son oraison nocturne. La mise en jeu, première caractéristique, la mise en jeu du corps dans la prière, par les postures et les déplacements, par les pratiques de flagellation aussi, c'est un point que je n'ai pas encore évoqué, mais c'est quelqu'un qui utilise beaucoup la discipline pour se flageller. Et deuxième caractéristique, l'engagement du corps, cet engagement du corps est indissociable d'une intense manifestation des affects. En particulier, frère Félix pleure beaucoup, aussi bien au cours de ses prières nocturnes qu'à la messe, et particulièrement lorsqu'il reçoit la communion, il communie tous les jours, et des témoins nous disent qu'il était incapable de dire les formules qui normalement se récitent à ce moment-là parce que les larmes étouffaient sa voix et il ne pouvait pas parler. Sa dévotion se concentre sur quelques aspects centraux de la foi, une forte dévotion à la passion du Christ, ainsi qu'à la nativité, surtout pendant le temps de l'Avent, et en plus, il est aussi un dévot de la Vierge. Il a coutume de dire qu'il ne connaissait que Saint Lettre, lui qui était analphabète, Saint Lettre rouge, les plaies du Christ, et une lettre blanche, la Vierge. Il y a donc chez lui un retour au fondement même de la foi chrétienne, de manière absolument radicale. L'intensité de sa vie spirituelle est explicitement confrontée par Mathias d'Assalo dans sa biographie à l'emploi de quêteur qu'exerce frère Félix, et c'est là qu'apparaît ce paradoxe. En effet, sa foi nourrit, sa vie d'oraison, sa vie spirituelle, nourrit le volet apostolique qui est inhérent à la quête. Frère Félix, lorsqu'il se rend dans les maisons, est capable de dispenser un discours au fort contenu spirituel, parce que ce discours est appuyé sur son expérience personnelle. Ce qu'il explique le jour, c'est ce qu'il a médité la nuit au cours de ses séjours à l'église. D'autre part, cette expérience spirituelle lui permet de surmonter les défauts qui s'observent habituellement chez les quêteurs, et c'est ainsi qu'il résout ce paradoxe. Contrairement à la plupart d'entre eux, il ne se laisse pas envahir par ses occupations extérieures et distraire du recueillement qui doit être celui du bon religieux. Il n'échappe pas non plus aux obligations de la règle que la fréquentation du monde tend à faire oublier, notamment chez beaucoup de quêteurs. Donc frère Félix assume ce paradoxe du quêteur, articulant avec bonheur l'intérieur et l'extérieur, l'esprit d'oraison et l'apostolat. En cela, je crois qu'il représente, dans cette jonction entre l'esprit d'oraison et l'apostolat, en cela, je crois qu'il représente bien les ambitions du nouvel ordre et plus largement des ambitions qui sont celles de la réforme catholique. Il y a un troisième élément dans sa manière de vivre sa vocation de capucin, c'est sa crainte de la perte ou l'attachement aux origines. Les biographies surtout, mais aussi certaines dépositions, insistent fortement sur la crainte qu'il avait que l'évolution à propos de l'évolution de l'ordre et du peu de zèle des frères, et que tout cela ne conduise à une perte de l'esprit originel. Lorsqu'il se permet de reprendre ses frères, lui qui est à l'ordinaire silencieux et obéissant, c'est toujours à l'occasion de manquements aux observances. Il lui arrive même de reprendre les supérieurs lorsqu'il le juge nécessaire. Non seulement il souhaite une application rigoureuse de la règle, mais à diverses reprises, les témoins et les biographes évoquent les références qu'il fait à François d'Assise directement. Ainsi, au frère qui, par souci de rendre les mets un peu plus savoureux, y ajoute du sel, Félix rappelle que François, lui, y ajoutait des cendres. Une telle vigilance à ce que les frères respectent fidèlement la lettre et l'esprit de la règle procède fondamentalement de la crainte que le mode de vie pratiqué aux origines et les valeurs qu'il véhicule ne se perdent. Un des témoins rapporte que peu avant sa mort, Félix lui avait dit souhaiter la mort en raison du relâchement qu'il relevait parmi les frères. Il ne lui semblait pas que les causes de la religion et andas et rocon quel rigor et estretet sa que vole valui. Il ne lui semblait pas donc que la religion allait dans le sens de la rigueur et de la rigueur qu'il souhaitait lui-même. Cette crainte de la perte de la ferveur des origines est très présente chez les premiers biographes qui, d'une certaine manière, partagent cette inquiétude qu'il a. Les uns et les autres, ces biographes, Mathias da Salo notamment, craignent que finalement l'accroissement du nombre des frères, on est passé à une nouvelle génération, il y a des effets de génération qui jouent, et que l'accroissement du nombre des frères fasse que peu à peu, on ne sache plus ce qu'était le mode de vie des frères des premières générations. En un sens, écrire la vie de frère Félix, c'est d'abord une écriture à vocation interne pour rappeler aux nouveaux religieux ce qu'était l'existence des plus anciens et de ceux qui, parmi les plus anciens, étaient les plus respectueux de la règle. J'en arrive par là à ma troisième partie qui se voudrait un peu un élargissement par rapport à cette perspective. En effet, jusqu'à présent, j'ai essayé de montrer en quoi le frère Félix était une illustration d'une manière de concevoir la vie capucine, mais je voudrais maintenant essayer de montrer que la sainteté de frère Félix, telle qu'elle est présentée, est une sainteté parfaitement conforme à la conception qu'on en a dans la Rome post-tridentine. Un certain nombre de traits qui s'observent chez lui se retrouvent chez des hommes phares de cette période de la réforme catholique, et notamment chez Philippe Néri. Ceux qui connaissent la vie de Philippe Néri auront repéré déjà en cours de route un certain nombre d'éléments. Je pense en particulier à cette question des larmes, à cette dimension émotionnelle dans l'expression religieuse. Ce qui invite peut-être à définir un modèle de sainteté et par là même à essayer de comprendre l'atmosphère de cette époque. Je pense que le premier point sur lequel il faut insister ici, c'est la question de la rénovation de l'apostolat. L'exigence de l'apostolat est réaffirmée vivement et presque toutes les grandes figures du temps y prennent part de différentes manières. La sainteté de la période qui suit immédiatement la clôture du Concile de Trente est une période de sainteté active. Toutes les grandes figures, ou presque, il y a quelques exceptions notables, certes, mais la plupart des grandes figures sont actives du point de vue apostolique. Félix, qui lui est un frère laid, un analphabète, y prend sa part à Rome même, ce qui peut sembler paradoxal, mais reflète bien en réalité les formes privilégiées de cet apostolat rénové. Parce que précisément, cet apostolat rénové utilise d'autres voies que ce qu'on range traditionnellement sous le terme d'apostolat. Cet homme simple, cet idiota, pour reprendre ce qui est dit de lui dans un certain nombre de textes, dispense des exhortations aux personnes qu'il rencontre, notamment à celles qu'il visite au cours de ses tournées de quête, qui deviennent même, d'une certaine manière, prétexte à dispensation. La quête devient prétexte à dispensation d'admonition spirituelle. Évidemment, le contenu de ces exhortations roule exclusivement sur les fondements de la vie chrétienne et sur les obligations principales du chrétien. Toutefois, on voit là Félix agir comme un relais de discours plus complexes, puisqu'il semble parfois reprendre des thèmes de prédication qu'il a entendus. Et donc, il va apporter dans les maisons le contenu de la prédication qu'il a entendue. On a là l'idée d'exhortations qui doivent toucher le public au plus près et même dans sa maison. Il faut relever toutefois que cet enseignement simple, dans la forme comme sur le fond, n'est pas destiné exclusivement au milieu populaire. Et je rappelle que l'apostolat de Félix touche toutes les catégories sociales et que notamment il est très bien accueilli dans les maisons des grandes familles. Deuxième caractéristique sur cette dimension apostolique, sur cet apostolat, le vecteur privilégié de l'enseignement de Félix est le petit cantique ou la petite chanson, la canzonetta, comme disent les textes qui en parlent, qui sont des petits cantiques de sa composition. Le texte est souvent bref, parfois c'est une simple formule, parfois il contient 4 vers, et il porte sur les rudiments de la doctrine ou sur les éléments essentiels de ce qu'il faut connaître pour être un bon chrétien. Aucune information sur les timbres, bien sûr, dont on peut supposer qu'il s'agit des reconnus par ailleurs. Le texte le plus souvent mentionné, qui est aussi le plus court, c'est « Ô Jésus », répété 3 fois, « Piliate il mio cor et non me le rendere più », et non me lo rendere più, Jésus, prend pour toi mon cœur et ne me le rend plus. Félix chante continuellement ou presque lors de ses déplacements en ville. Les témoignages laissent entendre qu'il est souvent entouré d'enfants qui chantent avec lui, et d'autres témoignages insistent sur le fait qu'il enseigne ses chansons dans les palais de l'aristocratie. Un témoin déclare qu'avec les grandes dames, et voici ce que dit ce témoin, ragionava sempre di cose devote, il parlait toujours de choses dévotes, et diceva, orsu signora, ti voglio imparare una bella canzone. Et madame, je veux t'apprendre une belle chanson. Dans la pratique de Félix, apostolat et charité sont indissociables, et c'est un autre aspect de son apostolat, ce qui constitue aussi un trait caractéristique de cette époque. Avec l'autorisation de ses supérieurs, il apporte à des pauvres des vivres et des vêtements. Les Capucins vivent déjà dans la difficulté. Lui a obtenu l'autorisation de pouvoir quêter aussi pour les pauvres. Il porte donc aux pauvres des vivres et des vêtements qu'il recueille dans les palais. Il est même autorisé à donner du pain reçu pour le couvent. Il devient ainsi le quêteur des pauvres. Et je crois que c'est une dimension importante, surtout dans un contexte où, à diverses reprises, des mesures sont prises contre les mendiants à Rome par les papes. Donc il devient l'intermédiaire des pauvres d'une certaine manière. Sa charité se manifeste aussi dans ses visites aux malades, qu'il s'agisse des frères du couvent ou des séculiers. Deuxième caractéristique de sa sainteté, comme sainteté romaine de la fin du XVIe siècle, son comportement est un comportement en rupture. J'entends par là, je repars là, si vous voulez, d'un morceau de la règle de saint François, qui dit que les frères doivent être des pèlerins et des étrangers en ce monde. Donc un trait caractéristique du comportement de frère Félix, c'est que, comme un certain nombre d'autres figures de proue de cette phase de la réforme catholique, et on pense à nouveau évidemment ici à Philippe Néri, il y a chez lui le choix d'une rupture avec les valeurs du monde à travers un comportement non conventionnel. Frère Félix a un aspect insolite par son habit, mais son comportement a aussi de quoi surprendre. Non seulement il côtoie tous les milieux sociaux, mais sa relation à toutes les personnes est la même, sans tenir compte des statuts sociaux. En particulier, il tutoie tous ceux qu'il rencontre. Certains de ses compagnons, d'après leurs témoignages, sont surpris de ce comportement, notamment à l'égard des cardinaux, par exemple, parce que même les cardinaux, ils les abordent de manière directe et en les tutoyant. Il méprise son corps, il méprise son apparence extérieure, il marque son détachement des valeurs du monde et il est prêt à affronter le mépris des autres quand il ne s'emploie pas lui-même à le susciter, ce mépris. Plusieurs anecdotes existent où il est l'objet de la risée publique. Un frère le décore d'un bouquet de fleurs destiné à l'autel alors qu'ils vont croiser ensemble un groupe de personnes, sachant qu'inévitablement toutes ces personnes vont rire. Philippe Néri ou l'un de ses compagnons l'envoie quêter en lui mettant un chapeau sur la tête, ce qui évidemment, vu son habit de capucin, paraît complètement incongru et suscite là aussi le rire. Apparemment, les rencontres, d'après ces témoignages, les rencontres entre Félix de Cantalis et Philippe Néri sont des moments privilégiés de facétie, l'un comme l'autre étant désireux d'attirer le mépris du monde sur leur personne pour une plus grande efficacité apostolique. Le rejet des conventions lui permet aussi d'aller à l'essentiel, c'est-à-dire la conversion et le salut. Sa parole est libre, qu'il s'agisse de reprendre les femmes qui lui apparaissent comme indécemment vêtues, d'inviter les filles à se confesser et à dire le chapelet, ou de reprendre les prédicateurs, et le point me paraît le plus important, qui font primer la forme sur le fond, les prédicateurs qui prêchent curiosamente, et comme disent certains témoins, et que l'humble frère Lay rappelle à leur devoir d'édification. D'une certaine manière, frère Félix apparaît comme un de ces hommes chez qui l'ignorance du savoir humain est amplement comblée par un savoir divin. Il peut être tenu pour un représentant de cette docte ignorance qui aura ses heures de gloire dans la mystique quelques décennies plus tard. Je pense en particulier à ce qu'écrit Surin à ce sujet-là. Mais je note par exemple que le premier historiographe des Capucins, le frère Boverius, parlant de Félix de Cantalis, renvoie à 1 Corinthiens 1,17, c'est-à-dire précisément le passage où il est dit que certaines choses sont cachées aux sages et seront révélées aux simples. Donc il y a là, dès l'origine, je crois, une association, enfin une corrélation entre son ignorance des choses du monde et son savoir des choses célestes. C'est ce qui est suggéré par l'ensemble des premiers biographes. Et je terminerai, ce sera ma conclusion, en disant que cette figure de Félix de Cantalis trouve à s'exprimer aussi clairement et sans doute est retenue aussi et par les témoins du temps et par les biographes parce qu'elle rencontre un contexte tout à fait favorable dans la Rome de cette époque. Cette figure de Félix doit incontestablement son succès à la toile de fond de son existence et de son apostolat, c'est-à-dire les pontificats de papes réformateurs, notamment en matière de mœurs, et je pense bien sûr ici à Pie V, à Grégoire XIII et à Sixte Quint. Ce sont des papes qui, de différentes manières, impulsent tous une réforme morale d'envergure qui doit toucher toute la société romaine, curie comprise. Ils portent une attention particulière à la réforme des ordres religieux, au respect des règles et des observances, au développement des nouvelles familles religieuses. Une des marques de cette attention sera la nomination du cardinal Santori, dit plus souvent cardinal de Santa Severina, comme protecteur des franciscains et donc des capucins, et comme protecteur également des servites. Et c'est à travers lui qu'il y a un suivi des réformes de ces familles religieuses. Donc Rome, à cette date, est une ville dont les manifestations de la ferveur renvoie volontiers à une sorte de pureté des origines avec cette action des papes, dont d'ailleurs origines dont les traces sont recherchées à cette époque-là, c'est l'époque de réouverture des catacombes. Le contexte est au rétablissement d'une ferveur ancienne, d'une ferveur originelle, pourrait-on dire aussi, à travers, au-delà des scories laissées par le temps et par le péché. Le succès du jubilé de 1575 qui réunit 400 000 fidèles concrétise ces aspirations puisque le jubilé, c'est, je le rappelle, le temps du pardon et de l'effacement des fautes. Félix de Cantalis, dont on ne sait rien de la participation aux grandes manifestations de la ferveur collective, on ne sait rien de sa participation au jubilé de 1575. On ne sait rien non plus de son éventuelle participation au pèlerinage des sept églises. Félix de Cantalis, donc, qui n'apparaît pas dans ces grands événements, apparaît en tout cas comme une figure de l'enracinement de cette rénovation dans le quotidien, et c'est peut-être à ce titre-là qu'elle a été retenue très tôt par les témoins de l'époque et par l'historiographie et la géographie du début du XVIIe siècle. Je vous remercie.
Je remercie chaleureusement Bernard Dampnier pour cette magnifique évocation, doublée d'une analyse très fine de la personnalité centrale de ce saint finalement très mal connu. Et je relève notamment le talent avec lequel il a mis en valeur la manière dont les procès en canonisation, qui sont des sources hors pair, dont on a, On aurait facilement tendance à les prendre pour des photographies de la société à un certain moment, sont en fait des sources filtrées, réélaborées par l'écriture et par la finalité hagiographique, desquelles on peut finalement dégager un modèle. Étant moi-même plus en connaissant mieux, disons, la question de la géographie de Saint-Philippe-Néri, je suis extrêmement frappée par les parallèles constants, au point qu'on peut se demander si les dépositions ne se sont pas reprises les unes les autres. Ben, les modèles sont extrêmement frappants, à ceci près que Saint-Philippe-Néri n'avait pas le même avantage, pourrait-on dire, de l'analphabétisme, et que le contexte personnel est différent, mais les situations sont très proches. La survalorisation des larmes qui coupe la parole, Saint-Philippe Néri n'a pas pu terminer la dernière messe qu'il a dite parce qu'il était suffoqué par les larmes. Le mépris de soi, se promener avec un chapeau, enfin, il n'y avait pas seulement le chapeau qu'il a mis sur la tête de Saint-Félix de Grandalis, mais aussi ce qu'il portait. Enfin, on sent là vraiment un parallèle très fort qui évoque aussi cette espèce de stéréotype qu'on lit dans les récits de conversion de la même époque, qui eux ne sont pas forcément collectifs et hagiographiques, mais qui obéissent aussi à des canons comme ça d'écriture assez étonnants. Un élément sur lequel j'espère on pourra revenir tout à l'heure et qui m'a paru absolument fascinant comme piste de réflexion, c'est la dimension musicale et la dimension de l'oralité dans la manière dont un analphabète peut transmettre et reformuler et prêcher avec le secours de la musique, la circulation des timbres musicaux, mais aussi celle de prédication ou de fragments de prédication qu'on redistribue finalement un peu comme les cantastori. Elles peuvent véhiculer une histoire en la reformulant et dans une tradition qui était alors tout à fait établie, mais dont j'ignorais personnellement l'importance dans un contexte religieux. Je vous propose que nous enchaînions les communications, parce que je crois qu'il y aura beaucoup de points communs entre la fin de la communication de Bernard Dampnier et l'évocation de cette ferveur apostolique et d'une certaine manière une utopie régressive, et la communication du professeur Ossola, qui va nous parler de Gallogno, qui était justement un des grands archéologues de l'Église antique.